Le ciel, par W. Trottet, édition 1921. Deuxième enregistrement. Avertissement. Dans le texte, lorsque l'auteur de l'écrit a cité expressément la parole, celle-ci correspond à la version utilisée à son époque, fin du XIXe siècle. Ce qui explique ainsi des différences avec la version actuelle. Lorsque seule la référence biblique a été donnée, c'est la version Darby, plus récente, qui a été lue. Si de Luc nous passons immédiatement aux Actes, ce n'est pas que l'évangile de Jean ne jette pas de lumière sur le sujet qui nous occupe, ou que nous ayons l'intention de le laisser de côté, mais parce que les actes ne sont proprement que la continuation de l'évangile de Luc. L'évangile finit avec l'ascension de Jésus au ciel, les actes commencent par reprendre les particularités de cet événement, en donnant quelques détails qui ne se trouvent pas dans le livre précédent. Les cœurs des disciples n'étaient pas encore détachés de la terre, puisqu'ils interrogèrent Jésus en disant « Est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Mais il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les saisons que le Père a réservés à sa propre autorité, mais vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit venant sur vous. » Et vous serez mes témoins à Jérusalem, et dans toute la Judée, et la Samarie, et jusqu'au bout de la terre. Acte 1, versets 6 à 8. C'est après avoir dit ces choses qu'il fut élevé, et qu'une nuée l'emporta de devant leurs yeux. Depuis ce moment, ils eurent les yeux arrêtés vers le ciel, qui était tout pour eux, depuis qu'ils avaient reçu leur Seigneur. Et qu'est-ce qui est révélé à leurs esprits en extase? C'est le retour de celui qui venait de partir.
Homme galiléen, pourquoi vous tenez-vous ici regardant vers le ciel? Ce Jésus, qui a été élevé d'avec vous dans le ciel, viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en allant au ciel.
Acte chapitre 1, verset 11. Le ciel devenait ainsi le lieu de leurs affections, comme demeure de celui que leurs cœurs aimaient, et le lieu de leurs espérances, comme point de départ de celui qu'ils se réjouissaient de revoir bientôt. Peut-on en dire autant de chacun de nous, bien-aimés? Et, si nous nous posons cette question, quelle réponse aurons-nous à y faire? Comme au contraire, les cœurs des apôtres et des premiers chrétiens cédaient à cette attraction divine. Lisez les premiers chapitres des Actes, et vous trouverez que chez eux le ciel était la pensée qui absorbait tout, parce que Jésus y était monté, et y était exalté à la droite de Dieu.
Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, ce dont nous sommes tous témoins. Ayant donc été exalté par la droite de Dieu, et ayant reçu de la part du Père l'Esprit Saint promis, il a répandu ce que vous voyez et entendez. Car David n'est point monté dans les cieux, mais il dit lui-même, « Le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. »
Acte 2, versets 32 à 34. Le ciel doit le retenir jusqu'au temps du rétablissement de toutes les choses dont Dieu a parlé de tout temps par la bouche de tous ses saints prophètes. Acte chapitre 3, versets 20 et 21.
Qu'il envoie Jésus-Christ, qui vous a été préordonné, lequel il faut que le ciel reçoive jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes de tout temps.
Et quel était l'effet pratique de cette connaissance de Christ, comme homme glorifié dans le ciel, et du Saint-Esprit descendu du ciel pour rendre témoignage à cette gloire? C'était de faire mépriser la terre. si le ciel était tout, parce que Christ y était, la terre n'était rien, parce qu'elle avait rejeté Christ. Il se réjouissait en conséquence d'abandonner ce que, comme hommes terrestres, ils auraient estimé et recherché. Des distinctions, comme celles entre les pauvres et les riches, s'évanouissaient parmi ceux qui étaient tous enrichis d'espérances célestes. Un Christ crucifié, ressuscité, glorifié et révélé par le Saint-Esprit descendu du ciel, concentrait les affections de tous, et, à côté de ce trésor, tout le reste n'était que vanité. Or la multitude de ceux qui avaient cru était un cœur et une âme, et nul ne disait d'aucune des choses qu'il possédait qu'elle fût à lui, mais toutes choses étaient communes entre eux. Et les apôtres rendaient témoignage avec une grande puissance à la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce était sur eux tous, car il n'y avait aucun indigent parmi eux, car tous ceux qui possédaient des terres ou des maisons les vendaient et apportaient le prix des choses vendues et le mettaient aux pieds des apôtres, et il était distribué à chacun selon qu'il en avait besoin.
Acte 4, versets 32 à 35. Jésus était descendu du ciel et avait, dans sa vie d'humiliation, d'obéissance et d'amour, révélé les affections et les voies du ciel. Et maintenant, il y avait sur la terre une assemblée dans laquelle, pour quelque temps et quoique imparfaitement, les mêmes choses étaient manifestées au monde. Et quelle est la cause de la ruine actuelle de l'Église? C'est qu'elle a perdu de vue le ciel pour se laisser absorber par les choses de la terre. C'est l'esprit du ciel qui rassemble et unit. C'est l'esprit de ce monde qui divise et disperse. Prenez un point de ralliement sur la terre, et vous pourrez y rassembler quelques-uns qui l'envisagent de la même manière. Mais en rassemblant ceux-là, ou en rassemblant avec eux, vous vous séparez de Christ et de ceux qui sont à lui. Que Christ, dans sa gloire céleste, soit réellement vu par la foi, et il faudra nécessairement que ceux à qui, par la puissance du Saint-Esprit, il aura été ainsi révélé, se rassemblent autour de lui. Hélas, nous voyons déjà dans les chapitres 5 et 6 des Actes comment le mal s'introduisit dans l'Église, et le chapitre 7 nous montre que le monde ne pouvait supporter cette lumière céleste qui resplendissait encore dans la marche de ses témoins d'un Christ rejeté de la terre. Mais si Étienne eut le premier l'honneur d'être rendu conforme à la mort de Jésus, il eut aussi l'honneur d'être le premier qui vit le ciel ouvert et le Fils de l'homme se tenant à la droite de Dieu. Le ciel s'était ouvert au baptême de Jésus pour proclamer qu'il était le Fils bien-aimé du Père. Une voix de la gloire magnifique avait révélé la même chose sur la sainte montagne. Jésus lui-même était monté au ciel à la vue de ses disciples, mais une nuée l'avait emporté de devant leurs yeux. Acte 1, verset 9.
Et ayant dit ces choses, il fut élevé de la terre, comme il regardait, et une nuée le reçut, et l'emporta de devant leurs yeux.
Et maintenant, il est donné au témoin expirant pour son maître céleste de voir le ciel ouvert, et Jésus encore debout à la droite de Dieu. Acte 7, verset 55.
Mais lui, étant plein de l'Esprit-Saint et ayant les yeux attachés sur le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu.
Il l'avait vu déjà si clairement, par la foi, avant le commencement de son discours, que son visage en reflétait la gloire.
Et tous ceux qui étaient assis dans le conseil, ayant arrêté les yeux sur lui, virent son visage
comme un visage d'ange. Acte 6, verset 15. Mais, entendant les choses qu'il leur disait, ils frémissaient de rage en leur cœur, ils grinçaient les dents, et, l'ayant jeté hors de la ville, ils le lapidèrent. « Comment Étienne répondit-il à tout cela ?» Ici encore, il suivit les pas de son maître. Jésus avait dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Luc 23, verset 34. Étienne dit, « Seigneur, ne leur impute point ce péché. » Acte 7, verset 60. Jésus avait dit, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Luc 23, verset 46. Étienne dit, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Acte 7, verset 59. Depuis la mort d'Étienne, les travaux de ceux qui annonçaient l'Évangile s'étendirent sur un champ plus vaste, comme nous verrons quand nous reprendrons le livre des Actes, et prirent un caractère plus céleste, toutes les choses qui tenaient plus particulièrement à la nation juive, et ainsi à la terre, étant insensiblement abandonnées. Mais je m'arrête pour le moment et retourne à l'Évangile de Jean. On a souvent remarqué que Jean ne raconte pas la transfiguration, et la raison en est sans doute que, pendant tout cet évangile, Jésus nous est montré dans une élévation et une gloire semblables à celle qu'il a déployée sur la sainte montagne, en sorte qu'il eût été inutile de faire ressortir, comme particulier et exceptionnel, un fait qui brille partout. Dans les autres évangiles, Jésus nous est montré comme un homme sur la terre, se distinguant assurément de tous les autres hommes par des choses qui montraient qu'il était et que le ciel le reconnaissait pour être plus qu'un homme. Mais enfin, comme un homme caractérisé tantôt par sa descendance selon la chair, de David et d'Abraham, tantôt par le commencement de son ministère public en Israël, tantôt par sa naissance miraculeuse comme fils de la Vierge, et néanmoins fils de Dieu. Le caractère général de chacun de ces récits est en harmonie avec son point de départ. Néanmoins, c'est le même Christ. Chaque évangéliste, malgré les différences qui le distinguent, nous dépeignant le même personnage céleste. Mais le ciel est le principal point de départ de Jean. Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1, verset 1. C'est l'éternité de Christ, ses titres et ses gloires divines, sa descente du ciel pour revêtir la chair et prendre les différents caractères sous lesquels les autres évangiles le représentent. Et la parole devint chair et habita au milieu de nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous vîmes sa gloire, gloire comme d'un Fils unique de la part du Père. Jean 1, verset 14. Ce n'est pas ici le ciel s'ouvrant sur un homme sur la terre, un homme humble et obéissant, pour proclamer qu'il est le Fils bien-aimé de celui qui a mis en lui toute son affection. C'est d'entrer Christ comme Fils du Père, comme celui qui était avec Dieu, qui était Dieu, et dont la gloire, quand il prit un corps pour que l'homme pût le voir, était la gloire du Fils unique du Père. Aussi Jésus dit-il à Nathanaël, déjà à la fin du premier chapitre, « Désormais vous verrez le ciel ouvert, et les anges de Dieu montant et descendant sur le Fils de l'homme. » Dans sa conversation avec Nicodème, notre Seigneur lui parle du royaume de Dieu en disant que celui qui est né de la chair ne peut ni le voir ni y entrer, et il insiste en conséquence sur la nécessité de naître de nouveau. Mais il lui montre aussi que ce royaume a une partie céleste aussi bien qu'une partie terrestre, et, tandis que Nicodème, comme docteur en Israël, aurait dû savoir que, même dans le royaume terrestre, on ne pouvait entrer sans nouvelle naissance, Jésus seul pouvait lui révéler les choses célestes. Lui pouvait les connaître et en parler avec certitude, comme de choses qui lui étaient familières.
Ce que nous savons, nous le disons, et ce que nous avons vu, nous le témoignons, et vous ne recevez point notre témoignage. Si je vous ai parlé des choses terrestres, et que vous ne croyiez pas, comment croirez-vous si je vous parle des choses célestes? Et personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel.
Jean 3, versets 11 à 13. Ah, il y a là des hauteurs auxquelles aucun homme ne peut atteindre, et des secrets de bénédiction et de gloire qu'aucun homme ne peut révéler, sauf celui qui était descendu de ces hauteurs, et qui, mystère admirable, pendant qu'il marchait ici comme homme dans l'humiliation, était néanmoins toujours, en vertu de sa divinité, autant là-haut qu'ici.
Le Fils de l'homme qui est dans le ciel.
Et si Nicodème était alors incapable de comprendre ces mystères célestes, il avait cela de commun avec nous tous. Il faut d'abord connaître la croix, l'amour de Dieu en donnant son Fils unique, et le pardon des péchés par l'élévation du Fils de l'homme sur la croix. Voilà les vérités par lesquelles une nouvelle vie est communiquée, et par la réception desquelles un homme naît de nouveau. Alors il peut comprendre ces mystères de gloire et de grâce. Mais la croix était nécessaire du côté de Christ, et cette nouvelle naissance est nécessaire de notre côté, pour que nous puissions recevoir la connaissance vivante des choses célestes. La capacité naturelle, quelle qu'elle soit, ne peut servir de rien ici, comme Jean-Baptiste en rend lui-même témoignage.
Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est de la terre et parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Et, de ce qu'il a vu et entendu, de cela il rend témoignage. Et nul ne reçoit son témoignage.
Jean 3, versets 31 et 32. Mais quoi qu'aucun homme ne le reçoive par nature, il y en a qui, par la grâce de Dieu, sont rendus capables de le recevoir.
Celui qui a reçu son témoignage a scellé que Dieu est vrai.
Verset 33. Et c'est pour lui qu'il est ajouté.
Le Père aime le Fils et a mis toutes choses entre ses mains.
Verset 35. C'est ainsi qu'il nous est donné un aperçu de ces choses célestes qui ne pouvaient encore être révélées en détail. Il y avait bien quelqu'un qui les connaissait et qui pouvait les révéler. Mais la croix était sur le chemin de cette révélation, et elle n'avait pas encore été soufferte. À cause de cela, et parce que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu, la capacité pour comprendre ces choses manquait même aux disciples. Nous voyons cela d'une manière remarquable à travers tout cet évangile. Dans le chapitre 4, nous avons un passage qui nous révèle quelque chose de nos joies futures. En l'absence de ses disciples, Jésus avait semé la précieuse semence dans le cœur d'une pauvre femme samaritaine. Elle était retournée à la ville, avait appelé ses habitants et les avait ainsi préparés à la réception de Jésus lui-même. Alors s'élève devant les yeux de Jésus la délicieuse perspective de passer 2 jours au milieu de cette heureuse foule et de leur présenter la vie éternelle en se faisant connaître à eux comme le Sauveur du monde. Jean 4, verset 42.
Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ton dire que nous croyons,
car nous-mêmes nous l'avons entendu, et nous connaissons que celui-ci est véritablement le Sauveur du monde. » Ses disciples doivent participer à cette joie. Ils doivent moissonner là où il a semé. Puis semeurs et moissonneurs doivent se réjouir ensemble. Levez vos yeux et regardez les campagnes, elles sont déjà blanches pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et assemble du fruit en vie éternelle, afin que, et celui qui sème, et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci est vérifiée la parole, l'un sème et un autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce à quoi vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé, et vous êtes entrés dans leur travail.
Versets 35 à 38. Et quant à nous, bien-aimés, qu'a été tout le temps de la vie de Jésus ici-bas, sinon un temps de semaille pendant lequel il a travaillé pour nous? Et que sera toute l'éternité, sinon le temps de la moisson, pendant lequel nous moissonnerons ce en quoi nous n'avons pas pris de peine? Oui, alors celui qui sème et ceux qui moissonnent se réjouiront ensemble. Mais si la semence semée par cet étranger céleste ne trouvait pas d'affinité dans le cœur naturel de l'homme, s'il fallait une nouvelle vie pour recevoir le témoignage de celui qui était descendu du ciel, il en résulte que la moisson produite par cette semence ne pouvait être moissonnée que dans la résurrection. Aussi, quelle importance ne voyons-nous pas accorder à la doctrine de la résurrection dans cet évangile du Fils de Dieu?
Car, comme le Père réveille les morts et les vivifie, de même aussi le Fils vivifie ce qu'il veut.
Jean 5, verset 21. Et le pouvoir du Fils de Dieu ne se manifeste pas seulement en vivifiant des âmes. Et béni soit son nom de ce qu'il se manifeste ainsi. Mais il se manifestera aussi en vivifiant des corps.
Ne soyez pas étonnés de cela, car l'heure vient en laquelle tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, et ils sortiront, ceux qui auront pratiqué le bien en résurrection de vie, et ceux qui auront fait le mal en résurrection de jugement.
Versets 28 et 29. C'est à la résurrection de vie que se rattache le sujet qui nous occupe. Aussi, comme Jésus paraît s'y complaire et s'en réjouir, puisque, dans le chapitre 6e, il en parle 4 fois.
C'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour.
Chapitre 6, verset 39.
C'est ici la volonté de mon Père, et quiconque contemple le Fils et croit en lui est la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour.
Chapitre 6, verset 40.
Nul ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne le tire, et je le ressusciterai au dernier jour.
Chapitre 6, verset 44.
Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour.
Chapitre 6, verset 54. Il est évident qu'ici Jésus remplace toutes les bénédictions royales des Juifs par celles de la résurrection et de la vie éternelle. Reconnu comme prophète, verset 14, mais refusant d'être roi selon la chair, verset 15, il se retire seul sur la montagne et envoie ses disciples qui s'embarquent. Jean chapitre 6, versets 14 et 15.
Les hommes donc, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient : celui-ci est véritablement le prophète qui vient dans le monde. Jésus donc, sachant qu'ils allaient venir et l'enlever afin de le faire roi, se retira encore sur la montagne, lui tout seul.
La mer est agitée, et ils ont de la peine à avancer, mais aussitôt que Jésus monte sur la barque, il touche à terre. Plus tard, le Seigneur parle de son retour au ciel d'où il était descendu.
« Ceci vous scandalise-t-il ? Si donc vous voyez le Fils de l'homme remonter où il était auparavant. »
Jean 6, versets 61 et 62. Puis il leur dit que son temps n'est pas encore venu de se manifester au monde. Hélas, quand il viendra, ce sera en jugement, et alors malheur au monde. Il monta néanmoins à la fête, mais comme en secret. Et quand on envoya des sergents pour le saisir, il leur dit
« Je suis encore un peu de temps avec vous, et je m'en vais à celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez, et vous ne me trouverez point, et là où je serai, vous n'y pouvez venir. »
Jean 7, versets 33 et 34. Mais pendant qu'il est ainsi absent de la terre, et caché là où les incrédules ne peuvent arriver, quel est le caractère de ce Christ rejeté, mais exalté? Quelles sont ses relations avec de pauvres pécheurs qui ont appris à le connaître et à le confesser?
En la dernière journée, la grande journée de la fête, Jésus se tint là et cria, disant, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Celui qui croit en moi, selon ce que dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. Or, il disait cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croyaient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié.
Jean 7, versets 37 à 39. Le Saint-Esprit devait témoigner sur la terre de la gloire céleste de Christ rejeté et, pendant que des fleuves d'eau vive devaient découler de ceux qui avaient cru, chaque pauvre pécheur altéré devait apprendre comme il était doux de se désaltérer auprès de Jésus. Quelle grâce parfaite et illimitée! Laissant de côté les contestations de Jésus avec les Juifs, où il leur tient un langage tel que celui-ci.
« Je sais d'où je suis venu et où je vais. »
Jean 8, verset 14.
« Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. »
Jean 8, verset 23. Laissant même de côté la manifestation de sa puissance dans la résurrection de Lazare, nous arrivons au moment où il commence à dévoiler à ses disciples les mystères de ce lieu d'où il était venu et où il allait retourner. Nous avons d'abord l'instruction symbolique qu'il leur donne en leur lavant les pieds. Nous avons ensuite ses communications directes avec les onze après que Judas se fut retiré. Jésus savait que son heure était venue de passer de ce monde vers le Père. Son moment était venu de quitter ce monde pour remonter auprès du Père. Mais il y laissait les siens et voulait leur montrer qu'il les aimait jusqu'à la fin. Jean 13, verset 1.
Or, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue pour passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin.
Et s'il le leur montra par l'acte le plus humiliant, il saisit cette occasion pour leur dévoiler le secret de cette humilité.
Jésus, sachant que le Père lui avait mis toutes choses entre les mains et qu'il était venu de Dieu, et s'en allait à Dieu, se lève de souper, pose ses vêtements, puis, ayant pris un linge, il s'en ceignit.
Chapitre 13, versets 3 et 4. La conscience d'être au-dessus de tout le mettait à même de se placer aux pieds de tous. Il en est de même pour nous. C'est la connaissance de nos privilèges célestes qui nous permet de prendre la dernière place sur la terre. Que pouvaient valoir les dignités et les honneurs de la terre pour le Fils de Dieu? Que peuvent-ils valoir pour celui qui connaît la communion avec lui? Mais tout cela se passait en présence du traître.
Vous êtes nets, mais non pas tous. Je ne parle pas de vous tous. Je sais ce que j'ai choisi, et c'est afin que l'Écriture soit accomplie. Celui qui mange le pain avec moi a levé le talon contre moi.
Jean 13, versets 10 et 18. Quand le traître fut sorti, le cœur de Jésus, renfermé jusqu'alors, s'épancha au milieu de ceux qui restaient.
Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et incontinent il le glorifiera.
Versets 31 et 32. Maintenant il parle clairement des choses que auparavant il n'avait fait qu'indiquer. Il n'était plus que pour peu de moments avec eux, et, comme il avait auparavant dit aux Juifs que là où il allait il ne pouvait le suivre, de même il dit maintenant à Pierre,
« Où je vais, tu ne peux me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. »
Verset 36. Ils ne voulaient pas que leurs cœurs fussent troublés. Ils avaient cru en Dieu qu'ils ne voyaient pas, et maintenant qu'ils devaient cesser d'être l'objet de leur vue, ils ne devaient pas cesser d'être l'objet de leur foi. Ils avaient cru en un Dieu invisible, ils devaient croire aussi en un Sauveur invisible. Ils allaient monter à la maison de son Père, et là il y avait plusieurs demeures.
Je vais vous préparer une place, et si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où je suis vous soyez aussi. Et vous savez où je vais, et vous en savez le chemin.
Jean 14, versets 2 à 4. Le ciel devait non seulement devenir tout pour eux, comme la demeure de leur Seigneur, et comme le lieu d'où ils attendaient son retour. Mais il leur dit maintenant clairement qu'il deviendra leur propre demeure, et que, quand il reviendra, ce sera pour les y placer. Il leur avait parlé de la maison de son Père. Chapitre 14, verset 2. Mais qu'est-ce qui la caractérise? Qu'est-ce qui fait qu'elle est la maison du Père? Quand les pensées de celui qui est exilé de la terre natale retournent à la demeure de son enfance, qu'est-ce qui enflamme son imagination et remplit son cœur? Sont-ce les appartements, les meubles, les tableaux? Non, quelque vastes que soient les appartements, quelque splendides que soient les meubles, quelque magnifiques que soient les tableaux, ce n'est rien de tout cela qui le fait soupirer après le retour. Ce n'est que ceci, la maison de mon Père. Jésus leur avait dit qu'il s'en allait auprès du Père, et de ce qu'il connaissait du Père, il pouvait conclure ce qu'était la maison du Père. Mais comment connaissait-il le Père? En connaissant Jésus.
Personne ne vit jamais Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître.
Jean 1, verset 18.
Qui m'a vu, a vu le Père,
dit Jésus. Jean 14, verset 9. En connaissant Jésus, il connaissait donc le Père. Il connaissait la maison du Père. Il savait où Jésus allait, et il connaissait le chemin. Et néanmoins, quoiqu'il dût connaître tout cela, et que Jésus leur en parlât comme s'il le connaissait, en fait, ils ne le connaissaient ni ne le comprenaient. Leurs oreilles étaient bouchées. C'est ce que montrent les questions que les uns et les autres adressent à Jésus. Il répond patiemment à tous leurs doutes et leur promet le Paraclète, l'Esprit Saint qui leur enseignera toutes choses. Verset 26.
Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous.
Chapitre 14, verset 20. Et ce n'est pas seulement que l'habitation de Jésus dans les siens ne put pas être connue avant son ascension au ciel et la descente du Saint-Esprit. La chose elle-même n'existait pas. Elle n'a commencé à exister que lorsque Jésus a pris place dans le ciel comme la tête glorifiée de son corps, de son Église, et que le Saint-Esprit est descendu pour faire son temple de chacun de ceux qui croient en Jésus.
Et le Consolateur, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites.
Jean 14, verset 26.
Je ne vous appelle plus esclave, car l'esclave ne sait pas ce que son Seigneur fait, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai ouï de mon Père.
Jean 15, verset 15. Assurément, ces passages décrivent notre privilège et notre bonheur actuel. Mais diminuent-ils notre bonheur futur? En est-il un d'entre nos privilèges qui sera amoindri dans le ciel? Ne continuerons-nous pas toujours à savoir que Jésus est en son Père, et nous en lui, et lui en nous, et nous en réjouir? Et ne connaîtrons-nous pas mieux la hauteur, la profondeur, la longueur et la largeur de son amour, quand nous serons avec lui dans la maison du Père, que nous ne les connaissons à présent? Si, aujourd'hui déjà, il nous traite en amis, nous envisagera-t-il comme des esclaves, quand nous serons avec lui dans la gloire? C'est impossible. Assurément, nous ne serons pas avec lui dans une relation plus étroite que celle dans laquelle nous sommes à présent, parce que nous ne le pourrions pas. Mais nous jouirons alors pleinement et éternellement des choses dont maintenant nous ne jouissons qu'imparfaitement, parce que nous serons débarrassés des entraves qui, aujourd'hui, empêchent notre jouissance. Néanmoins, quelque précieuses que fussent ces communications de Jésus à ses disciples, leur état ne lui permettait pas de leur tout dire. Il n'y avait aucun empêchement de son côté. Son cœur aurait au contraire aimé à répandre devant eux tout ce qu'il contenait. Mais, tant que le Saint-Esprit ne leur avait pas été donné, ils étaient incapables de comprendre tout ce qu'il aurait eu à leur dire.
J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les supporter maintenant. Et quand celui-là sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses qui vont arriver.
Jean 16, versets 12 et 13. Il paraît, d'après cela, que les choses qui font le bonheur futur des saints étaient au nombre de celles que les disciples ne pouvaient pas encore recevoir, mais que le Saint-Esprit devait leur révéler plus tard. Mais si Jésus ne pouvait les leur communiquer encore, il y avait quelqu'un devant qui il pouvait, sans réserve, répandre tous les désirs de son cœur, et il le fait devant son Père et en présence de ses disciples. Et il prie non seulement pour eux, mais pour tous ceux qui croiront en lui par le moyen de leurs paroles. Et sa prière s'étend au-delà de leur position ici-bas.
La gloire que tu m'as donnée, moi je la leur ai donnée, afin qu'ils soient un comme nous, nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient consommés en un, et que le monde connaisse que toi tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé.
Jean 17, versets 22 et 23. Cela ne nous donne-t-il pas une vue ravissante de ce qui est devant nous? Nous jouirons de la même gloire que le Père a donnée au Fils. Cette gloire sera manifestée au monde, et il verra ainsi que nous avons été les objets du même amour. Et nous aussi verrons la gloire de Jésus et témoignerons ainsi de l'amour dont il a été l'objet de toute éternité. Tout cela sera notre part.
Père, je veux, quant à ceux que tu m'as donnés, que là où je suis, ils y soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire que tu m'as donnée, car tu m'as aimé avant la fondation du monde.
Verset 24. Quel témoignage de son affection envers nous qu'il ait assez de confiance en la nôtre pour demander pour nous, comme ce qu'il y a de meilleur, de contempler la gloire que le Père lui a donnée. Et si maintenant vos cœurs sont insensibles à cette marque d'affection, ils ne le seront assurément pas alors. Ah, si seulement, dès à présent, ils pouvaient en être plus touchés et plus reconnaissants. Le seul point que je veux toucher encore dans l'évangile de Jean, c'est lorsque Jésus dit à Marie après sa résurrection, « Ne me touche point, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur, « Je monte vers mon Père et votre Père, et vers mon Dieu et votre Dieu. » Jean 20, verset 17. En montant vers son Père, il nous place dans la même position que lui-même devant le Père et devant Dieu. Quelle parole bénie! Mes frères, mon Père, mon Dieu, votre Dieu, qui peut en sonder la profondeur, et que sera le ciel où ces choses seront non seulement parfaitement connues, mais goûtées et réalisées?
Notre unité avec Christ est donc déjà établie dans l'évangile de Jean. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Jean 14, verset 20. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous, nous sommes un, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient consommés en un.
Jean 17, versets 22 et 23. Mon Père, votre Père, mon Dieu, votre Dieu. Jean 20, verset 17.
Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, et vers mon Dieu et votre Dieu.
Cela nous conduit tout naturellement au chapitre 9e des Actes. Déjà à la fin du chapitre 7e, il est question d'un jeune homme appelé Saul, qui était consentant de la mort d'Étienne. Le chapitre 9e nous raconte sa conversion. À lui fut révélée dès le principe cette unité des saints avec Christ en gloire. Étienne, en regardant en haut, avait vu le ciel ouvert et le Fils de l'homme à la droite de Dieu, prêt à recevoir l'esprit de son martyr aussitôt que ses meurtriers auraient accompli leur œuvre de cruauté et de sang. Saul, l'un d'entre eux, ou au moins consentant à leur meurtre et avide de les imiter, est arrêté tout à coup près de Damas par une lumière qui resplendit du ciel comme un éclair autour de lui, et, étant tombé par terre, il entend une voix qui lui dit
« Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il dit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et il dit « Je suis Jésus que tu persécutes. »
Acte 9, versets 4 et 5. C'est ainsi que, avec le premier rayon de lumière qui pénètre dans son cœur, il lui est révélé que Christ et ses saints sont un. S'il ne voit pas le ciel ouvert, comme vit Étienne, il voit le Seigneur, et la vue de cette gloire le rend aveugle pour 3 jours. Et il lui est montré que ceux qu'il persécute sont tellement identifiés avec Christ dans la gloire, qu'il peut lui dire « Tu me persécutes ». C'est de cela que, dès ce moment, il devient le témoin dévoué et infatigable. D'abord, il prêche que Jésus est le Fils de Dieu. Ensuite, que l'Église est une avec lui. C'est là ce qu'il appelle son évangile, et en face des coups, des liens, de la mort elle-même, dans toutes ses formes les plus horribles, il continue à attester devant les Juifs et les gentils, mais principalement devant ceux-ci, ce mystère qui, en d'autres générations, n'avait point été donné à connaître au Fils des hommes, mais qui maintenant était révélé par l'Esprit à ses saints envoyés prophètes. Ceci nous conduit tout naturellement à l'Épître aux Éphésiens. Cette épître commence par ces paroles.
Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis en toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ.
Éphésiens 1, verset 3. Remarquez que c'est le ciel qui est le lieu de nos bénédictions et qu'elles sont spirituelles. qu'elles sont en Christ et que nous les possédons déjà actuellement. Pouvons-nous donc nous étonner de l'action de grâce avec laquelle l'apôtre introduit ces choses? Étonnons-nous plutôt de l'insensibilité de nos cœurs qui peuvent les entendre avec tant d'indifférence. Élus en Christ avant la fondation du monde, prédestinés à l'adoption des enfants et acceptés dans le bien-aimé, ayant la rédemption en son sang, le pardon de nos péchés, connaissant les mystères du dessein de Dieu et ayant reçu un héritage en Christ, héritage dont nous possédons les fruits dès maintenant, ayant été scellés par le Saint-Esprit, nous sommes tout cela en vertu des bénédictions énumérées ici. Mais quel est ce mystère du dessein de Dieu que, en faisant de nous ses confidents, il nous a révélé?
Nous ayant fait connaître le mystère de sa volonté, selon son bon plaisir qu'il s'est proposé en lui-même pour l'administration de la plénitude des temps, savoir de réunir en un toutes choses dans le Christ, soit celles qui sont dans les cieux, soit celles qui sont sur la terre en lui.
Éphésiens 1, versets 9 et 10. L'unité de toutes choses dans le ciel et sur la terre, sous une seule tête en Christ, tel est le glorieux mystère dont la connaissance a été confiée à l'Église. Mais qu'est cette Église qui devient ainsi le vase de cette connaissance divine? Cherchons d'abord à connaître quelle est la place de Christ, et nous connaîtrons ainsi quelle est l'espérance de l'appel de Dieu, et quelle est la richesse de la gloire de son héritage dans les saints. Mais pour cela, nous avons besoin de l'esprit de sagesse et de révélation, nous avons besoin que les yeux de notre entendement soient ouverts. Il s'agit de connaître
quelle est l'espérance de son appel, la gloire de son héritage dans les saints, et l'excellente grandeur de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'opération de la puissance de sa force qu'il a opérée dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts. Et il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté et autorité et puissance et domination et de tout nom qui se nomme, non seulement dans ce siècle-ci, mais aussi dans celui qui est à venir. Et il a assujetti toute chose sous ses pieds, et il l'a donné pour tête au-dessus de toute chose, à l'assemblée qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous.
Versets 19 à 23. Telle est la hauteur de la gloire à laquelle a été élevé celui qui, pour nous, est descendu jusque dans la poussière du sépulcre. C'est dans la dispensation de la plénitude des temps que toute cette gloire sera manifestée, et c'est alors que nous posséderons avec Christ l'héritage que nous avons reçu en lui. Toutes choses sont mises sous ses pieds. Il est la tête de toutes choses, et nous sommes le corps de cette tête. Et notre nature déchue et pécheresse n'est pas un obstacle à cette gloire, car l'apôtre, après en avoir parlé, continue.
Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors même que nous étions morts par les offenses, il nous a vivifiés ensemble avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, dans le Christ Jésus.
Éphésiens 2, versets 4 à 6. Telle est la communion de l'Église avec Christ et sa position bénie. Et dans quel but tout cela?
Afin qu'il montrât dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce dans sa bonté envers nous, dans le Christ Jésus.
Verset 7. En présence des abondantes richesses de cette grâce et de l'unité céleste en Christ, dans laquelle elle a placé de pauvres pécheurs par nature morts dans leurs péchés et enfants de colère, toutes les distinctions humaines s'évanouissent. Même celle que Dieu avait établie entre les Juifs et les gentils disparaît. Tous deux sont dans la condamnation, mais tous deux sont sauvés par le sang de Christ,
afin qu'il créât les deux en lui-même pour être un seul homme nouveau, en faisant la paix, et qu'il les réconcilia tous les deux en un seul corps à Dieu par la croix.
Versets 15 et 16. Voilà pourquoi Jésus a souffert, afin que nous ayons, par son moyen,
les uns et les autres accès auprès du Père par un seul esprit.
Verset 18. En Jésus-Christ, pierre angulaire, tout l'édifice bien coordonné s'accroît pour être
un temple saint dans le Seigneur.
Verset 21. Voilà ce que l'Église a, et voilà ce qu'elle est par la grâce de Dieu. Après avoir parlé de l'ascension de Jésus, l'apôtre continue.
Or, qu'il soit monté, qu'est-ce? Sinon qu'il est aussi descendu dans les parties inférieures de la terre. Celui qui est descendu est le même qui est aussi monté au-dessus de tous les cieux, afin qu'il remplisse toutes choses.
Éphésiens 4, versets 9 et 10. Oui, il y a quelqu'un qui n'a pu monter qu'en commençant par descendre, et il est descendu même dans les parties les plus basses de la terre, afin que, ayant ainsi accompli la gloire de Dieu dans le lieu du péché et du triomphe de Satan, il puisse, montant au-dessus de tous les cieux, remplir toutes choses, en sorte que, pour la gloire de Dieu, pour la bénédiction des créatures et pour la joie des saints, il n'y ait pas un lieu entre la poussière de la mort et le trône de Dieu au-dessus des cieux, où Christ n'est pas été. Et c'est à ce Christ que nous sommes unis.
Un seul corps et un seul esprit.
Verset 4. Deux choses demandent à être considérées dans le chapitre 5. L'amour de Christ pour l'assemblée et la relation de l'assemblée avec Christ. Cette instruction se trouve au milieu des exhortations à marcher d'une manière digne de notre vocation céleste. Mais c'est souvent ainsi que, occasionnellement, nous sont données les choses les plus précieuses.
Marie, aimez vos femmes, comme aussi le Christ a aimé l'assemblée, et s'est livré lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifiât, en la purifiant par le lavage d'eau par la parole, afin que lui se présentât l'assemblée à lui-même, glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu'elle fût sainte et irréprochable.
Versets 25 à 27. C'est donc pour cela que Jésus s'est donné lui-même, et c'est pour cela qu'a lieu le lavage d'eau par la parole. L'Église, de toute éternité l'objet de l'affection de Christ comme don de l'amour du Père, déjà racheté et maintenant purifié, sera en définitive présenté par lui-même à lui-même comme une épouse sainte et glorieuse pour être les délices éternelles de son cœur. Puis l'apôtre, après avoir dit que personne n'eut jamais en haine sa propre chair, mais qu'il la nourrit et la soigne tendrement, comme aussi le Seigneur le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os, ajoute, et nous pouvons ajouter avec lui,
« Ce mystère est grand, mais je parle relativement à Christ et à l'Assemblée. »
Verset 32. Mais quoique l'amour de Christ pour l'Église et ses délices, quand il se la présente à lui-même en gloire, soit assurément l'un des objets les plus relevés, si ce n'est le plus relevé de la joie du ciel, il y a cependant ici un enseignement touchant la relation de l'Église avec Christ, qui ne doit pas être passé sous silence.
Le mari est le chef de la femme. Comme le Christ aussi est le chef de l'assemblée, lui le sauveur du corps. Mais comme l'assemblée est soumise au Christ, ainsi que les femmes aussi le soient à leurs maris en toutes choses.
Versets 23 et 24. La relation conjugale est si intime que, en vertu d'une ordonnance primitive de Dieu, elle surpasse toute autre.
C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux seront une seule chair.
Genèse 2, verset 24. Éphésiens 5, verset 31. Le principe de la Genèse est établi ici sur une nouvelle base, la relation conjugale entre Christ et l'Église. Mais si l'Église est placée ainsi avec Christ, dans la relation la plus intime que le langage humain puisse exprimer, et que le cœur puisse concevoir, quelle en est la conséquence de la part de l'Église? C'est la plus complète soumission à son Seigneur et Époux. C'est que l'Église trouve son plus grand bonheur à accorder la plus parfaite obéissance à celui qui l'a acquise à un si grand prix. Ainsi, il a la prééminence en toutes choses, dans toutes les fonctions qu'il remplit, dans toutes les positions qu'il occupe, quoique nous soyons associés et même identifiés avec lui, il prend la première place. Sommes-nous une habitation de Dieu, s'élevant pour être un temple saint? Il est le fondement et la principale pierre de coin. N'a-t-il pas honte de nous appeler ses frères? Nous savons qu'il est le premier-né d'entre plusieurs frères. Remportons-nous par la résurrection la victoire sur la mort pour être, lui et nous ensemble, une moisson glorieuse de gerbes pleines et mûres. Nous savons qu'il est les prémices, la poignée consacrée à Dieu, le premier-né d'entre les morts. L'Église est-elle son corps? Il est la tête de ce corps. Le lien conjugal est-il employé pour dépeindre l'union mystérieuse de l'Église avec Christ et l'affection illimitée qu'il lui témoigne? Sa place dans cette relation est encore celle du vase plus faible, soumise à Christ en toute chose.
Car le mari est le chef de la femme, comme le Christ aussi est le chef de l'assemblée.
Verset 23. Divin Jésus, nous remplirons un jour notre place dans cet ineffable mystère, comme tu as rempli et remplis encore la tienne. Comme Sarah qui obéissait à Abraham l'appelant Seigneur. 1 Pierre 3, verset 6. Nous aussi pouvons maintenant, par ta grâce, t'appeler Seigneur, et nous désirons te reconnaître comme tel dans chaque battement de notre cœur, trouvant notre bonheur suprême à t'être soumise en toutes choses.